Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde. Écoute les bruits du monde. Les bruits du monde par principe actif. Par principe actif.
Toi, l'homme aux semelles de vent, je veux te dire cette légende, fondatrice de nos origines. Ma grand-mère Peul, Hadi Diallo, qui était de Saint-Louis du Sénégal, me l'a conté si souvent. Dans des temps reculés, nul ne sait où, vivait dans un village une famille, dont un frère et une sœur. Un jour, les deux enfants se mirent à parler une langue inconnue de tous. Incompris, ils furent chassés de leur communauté. Errant dans la brousse, de sous-bois en clairière, ils atteignirent une mare. Le crépuscule venant, ils allumèrent un feu. Dans les profondeurs de cette mare vivait un troupeau de bovins. Attirés par les flammes, ils sortirent de l'eau. Les enfants firent de ce don leur propriété. Ainsi naquit le peuple Peul, avec troupeau et langue, à jamais lié.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Les Bruits du Monde, l'émission qui prête une oreille attentive aux brouhahas, aux musiques et à la poésie de notre vaste monde. Nous consacrons ce programme à différents peuples nomades de par le monde. Évidemment, une seule heure d'émission, c'est bien trop court pour tenter d'être exhaustif. Alors il y aura nécessairement bien trop d'oubliés. Nous tâcherons de leur rendre hommage une autre fois. On vient d'écouter un extrait du film Dans le miroir du fleuve, un film de Pascal Kwasigan, je pense qu'on dit comme ça. À Diafa Rabé, village du Massina au Mali, se déroule chaque année à la même époque une somptueuse fête Peul pour honorer les bergers, poètes et troupeaux de retour de transhumance dans l'immense plaine sahélienne. C'est un moment unique où les récits ancestraux se mêlent aux poèmes chantés, où les corps des bergers et leur bétail semblent pris du même vertige. Ce soir, pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure radiophonique, mes comparses à l'oreille attentive et à l'esprit vif, à savoir Vivien et notre nouvelle recrue, Manon, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on va écouter et de quoi allons-nous parler ce soir un peu plus en détail? Là, je vous invite dans notre sommaire, voilà, à détailler un petit peu. Peut-être Manon.
Oui, bah moi, j'ai donc vous présenter quelques films, notamment d'une réalisatrice mongole, et puis une référence à un auteur en fait qui a pas mal écrit justement sur le nomadisme. Et qui s'est surtout aussi intéressé au peuple aborigène. Voilà, donc quelques petites références. C'est pas forcément voilà, de la musique, mais je pense que quand on lit un livre, les mots résonnent dans notre esprit, donc ça reste quand même, on va dire, un son, un bruit. Et puis, bah, bien sûr, le cinéma, c'est des images, mais c'est aussi du son. Donc, ça pourrait être, d'une certaine manière, de nouveaux bruits du monde.
En voilà. Tout cas, on est ravis, évidemment, de vous compter ce soir parmi nous pour cette grande première dans les bruits du monde. Et on saura vous retrouver tout au long de la saison. Vivien, quant à vous, qu'est-ce que vous avez ramené dans votre baladeur MP3 ultramoderne 2.0?
On va essayer de voyager aux quatre coins du monde, alors... Je sais plus exactement ce qu'on a programmé, mais ça va
c'est très bien.
Des Inuits oui. À la République de Tuva.
Des Bushmen aussi, je crois.
Des Boshimans, oui, du Kalahari. Et puis un petit point sur la problématique des Sahraouis.
Vaste programme. Comme je le disais, on n'intégrera pas ce soir tous les peuples nomades dans cette émission.
On va voyager à 100 à l'heure, là.
Ouais, va falloir avoir un jet très, très, très rapide. On était sur les peuls avec le premier extrait. Je vous propose tout de suite qu'on écoute un chant traditionnel, les louanges des peuls. J'avais noté le disque, mais je vais le retrouver dans mes petits papiers. Voilà, le disque s'appelle Les Nomades du Niger, des louanges des peuls.
Yeah.
Voilà, vous venez d'écouter les louanges des Peuls Bororo sur le disque Les Nomades du Niger. Vivien, avec quoi on va poursuivre ce programme, cette émission ?
On va rester dans la même zone géographique avec les Sahraouis. On va commencer par écouter des extraits d'une émission de France Culture. C'était Les Grandes Traversées le 10 juillet 2015. Ça s'appelle Les Sahraouis, enfants des nuages. On va surtout entendre, je pense, une dame qui s'appelle Sophie Caratini, qui est anthropologue, et qui a écrit sur le désert, sur le Sahara, notamment La République des Sables, anthropologie d'une révolution chez l'Harmattan, c'est sorti en 2003. Pour comprendre un peu, je peux vous dire ce qui était écrit sur le site de cette émission, sur ce peuple sahraoui. Jusqu'au départ des Espagnols du Sahara occidental, les Sahraouis étaient nomades. Leur migration suivait la pluie, d'où leur surnom d'enfants des nuages. Mais depuis la décolonisation en 1976, les territoires sahraouis sont occupés par l'armée et les colons marocains. Désormais, la population, sédentarisée, vit dans des camps de réfugiés, séparés de la Mauritanie par un mur des sables, le plus long mur du monde planté au milieu des dunes. C'est là que se construit aujourd'hui la nouvelle identité sahraoui, autour du rêve d'une nation enfin autonome.
Il faut remonter à une époque où les Arabes n'étaient pas là. Les Arabes sont arrivés, en particulier dans l'ouest saharien, vers le XIIe, XIIIe siècle. Et ils ont trouvé là des populations berbères. Et dans ces zones désertiques, vous avez des populations nomades, chamelières. Leurs descendants sont appelés aujourd'hui les Maures. Ils parlent un dialecte arabe appelé Hassaniya. Parce que les Arabes qui sont arrivés dans cette région-là sont arrivés tardivement, au XIIIe siècle, et c'était des Beni Hassan, des descendants de Hassan. Et finalement, l'histoire du Sahara, c'est une histoire de voyage. Vous avez d'une part des populations qui vivent de l'élevage, et puis vous avez le grand commerce qui rejoignait l'Afrique noire et la Méditerranée depuis très longtemps, jusqu'à Venise. Donc, ça a toujours été un lieu de passage à la fois des marchandises et des idées. On les appelait Aoulad el Mizna, les enfants des nuages, parce que chaque été, ils se retrouvaient autour des puits, parce que l'été, les chameaux doivent boire. On dit toujours le chameau ne boit pas, c'est pas vrai. Le chameau ne boit pas, effectivement, il peut rester pendant très longtemps sans boire. À partir du moment où il ne fait pas trop trop chaud et dans des zones où il y a des pâturages verts, c'est-à-dire qui contiennent de l'humidité. Donc, mais en revanche, l'été, tout le monde est réuni autour des puits, il fait une chaleur terrible et il faut donner à boire aux chameaux tous les deux jours 100 litres d'eau. Donc on passe son temps à tirer du puits de l'eau, nuit et jour, pour abreuver les chameaux. Et puis après, comme on est au bord de la mer, on voit les nuages passer, les nuages porteurs d'eau, parce qu'ils viennent de la mer, forcément. Et là, avec l'expérience, de même qu'on sait lire l'heure et on sait quel jour de l'année on est en regardant les étoiles, on sait que ces nuages-là, ils ont de grandes chances de donner de la pluie. Donc, on envoie des éclaireurs, des gens qui suivent les nuages.
Le roi Hassan II a lui aussi trouvé des notables sahraouis qui lui ont fait allégeance et qui lui obéissent. Il peut penser que si l'exploitation des phosphates, en accord avec la Mauritanie, peut se faire sans mal, alors la moitié de son objectif aura été remplie. Le Sahara, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est le grand pays des phosphates.
Fuera Marruecos. murs. Sur plus de 400 km, il couvre des massifs de l'Ouarzaz au sud d'El Aaiun, capitale du Sahara occidental. Un mur de sable et de pierre, haut de 2 mètres, large de 3. Vu d'hélicoptère, on dirait comme une grosse boursouflure jaunâtre dans le désert. Une ligne Maginot des sables, solidement ancrée à la montagne nord et les pieds dans l'océan au sud, protégée par un réseau de barbelés et de mines. Tous les 15 km environ, il y a des points d'appui, des fortifications et des radars. Derrière le mur, il y a les deux tiers de l'armée marocaine qui surveillent et patrouillent. En tout, 70 000 hommes, une vingtaine d'unités mobiles d'intervention avec leurs jeeps, leurs canons autotractés, leurs engins blindés de reconnaissance, des AML. Dès que les radars ont repéré quelque chose, elles franchissent le mur et partent en chasse. En résumé, ce mur n'est rien d'autre qu'une sorte de ceinture pour protéger ce que les Marocains appellent le Sahara utile. Le reste est abandonné aux colonnes du Polisario, qui profitant de la nuit ou des coups de sirocco, se risquent jusqu'au mur, terme de leur aventure.
Les bruits du monde, par principe actif.
On vient d'écouter Mariem Hassan, le titre c'est Id Shab, donc une chanteuse sahraoui. Et puis on va enchaîner avec un titre un peu particulier, s'appelle Nomadic Mood de Senko Namchilak, qui est une chanteuse de la République de Tuva, qui est au nord de la Mongolie, sur un album qu'elle a fait cette année avec le groupe Tinariwen. Donc à la fois des Touaregs et puis des chants proches de ceux des Mongols.
Тэгээд travail de Deleuze.
Дөнгөж ирсэн дээр ачаа тавьсан юу гэж юм болох вэ?
Ахаа чи агуулж байгаач мэрэн үү? Настай үлдмээр байна уу? Аа сахра. Аа? Сахра.
Мэ би хат мэсэндэ хүм бол төрөглөө.
За би чамд нэг юм үзүүлээ. Энэ төний өдрөд нэг шиг удаа тагцсан бол имэдэ хэлээрэй.
Alors, vous venez d'entendre la bande-annonce du film Le Chien Jaune de Mongolie. Donc, un film très intéressant qui permet vraiment de voir comment vivent les nomades, les populations donc, mongoles. C'est un film donc, de 2006 réalisé par Byamba Suren Dava. Un nom pas évident à prononcer. Hein. C'est vrai que la langue mongole, on entend la sonorité dans la bande-annonce. C'est des sons particuliers pour nous. Hein. C'est un film donc. Qui est à la fois qui est vraiment entre la fiction et la réalité, ce genre de film où on ne sait pas trop si c'est un documentaire, puisque ce sont des personnes qui finalement dans cette fiction revivent leur vie aussi. Hein. Donc pour vous donner une petite idée de l'histoire, c'est l'histoire donc de Nansa, donc une petite fille de 6 ans. C'est l'aînée d'une famille de nomades au nord de la Mongolie. Et un jour, elle ramène chez elle un chien abandonné. Et son père donc pense que ce chien va leur porter malheur et il veut absolument qu'elle s'en débarrasse. Nansa, elle va donc tenter de le cacher. Mais le jour où la famille déménage, elle va donc devoir absolument abandonner le chien. Et ce n'est que lorsque son père découvrira que son dernier-né, donc un petit bébé de quelques mois, donc il va découvrir que ce nouveau-né a été sauvé d'une attaque de vautours grâce à ce chien, grâce au chien de Nansa. Et donc il va finalement, le père, accueillir l'animal au sein de la famille. Donc il y a toute cette histoire en fait. La réalisatrice en a eu l'idée à partir d'un conte mongol dont on peut parler. C'est le conte donc qui s'intitule La cave du chien jaune. Donc je peux vous proposer rapidement donc la lecture de ce conte. C'est vraiment ce conte qui lui a donné l'idée derrière donc d'écrire cette fiction. Cette fiction donc comme je vous l'expliquerai un petit peu plus tard en détail est quand même aussi enfin très proche de la réalité de la vie nomade. Donc le conte La cave du chien jaune, jadis une famille très riche vivait dans ce pays. Les parents chérissaient leur enfant, une jeune fille ravissante. Un jour, elle tomba très malade. Aucun médecin ne parvenait à la soigner. Son père demanda conseil à un sorcier qui déclara « Le chien jaune est fâché. Chassez-le de votre maison. » Le père, incrédule, répondit « Pourquoi ? Il protège les miens et notre troupeau. Ma fille l'aime tendrement. J'ai dit ce que j'avais à vous dire, il n'y a point d'autre remède, » insista le sorcier. « Vous savez ce que vous devez faire. » Le père n'eut pas le cœur de tuer son chien jaune, mais sa fille devait absolument guérir. Alors il décida de cacher le chien dans une cave dont il ne pourrait s'échapper et où nul ne le retrouverait. Chaque jour, il quittait la maison pour aller lui apporter à manger. La santé de sa fille commençait à s'améliorer, chaque jour elle reprenait des forces. Un matin, lorsque le père arriva devant la cave, le chien avait disparu. Sa fille se rétablit complètement. Le secret de sa guérison était le suivant. Elle était tombée amoureuse d'un jeune homme qu'elle rencontrait parfois secrètement. Grâce au chien jaune qui éloignait son père quotidiennement de la maison, elle put chaque jour retrouver le garçon qu'elle aimait. Donc elle a vraiment pris, la réalisatrice, donc Biam Basuren Dava, donc elle a pris le prétexte du conte pour revenir sur son enfance personnelle avec donc ce film Le chien jaune de Mongolie. Donc il y a l'histoire, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc il y a vraiment cette fiction, mais c'est surtout un film qui permet de dépeindre la vie quotidienne des nomades en Mongolie. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on voit tout simplement le quotidien de cette famille dans tous les gestes, dans tous les gestes de la vie de tous les jours, hein, c'est-à-dire il y a vraiment cette toutes les occupations quotidiennes, la préparation de la nourriture, le comportement et les attitudes des enfants aussi. Elle explique d'ailleurs en fait qu'elle a vraiment posé la caméra finalement dans la yourte dans laquelle donc vivent ces nomades. Et il y avait même des choses qui étaient donc prévues. Il y avait une sorte de scénario quand même écrit, mais il y a aussi beaucoup de choses finalement qui n'étaient pas spécialement prévues avec notamment les réactions des enfants qui n'étaient pas forcément préétablies. Donc elle a eu aussi de bonnes surprises et des choses finalement totalement qui n'étaient même pas jouées qu'elle a finalement gardées dans le film derrière. Donc je trouve toujours ce genre de film intéressant parce qu'en fait on ne sait jamais trop ce qui est réel, ce qui est fictif et on a finalement presque un documentaire avec malgré tout une histoire, mais ça permet vraiment de voir comment ça se passe là-bas. On voit aussi à un moment la manière dont ils vont changer aussi de lieu, donc on voit que c'est très compliqué, hein, le fait de démonter la yourte, de partir vers un autre lieu, etc. Ça permet vraiment de voir ce que c'est que de vivre dans un pays qui est quand même hostile. Hein. Faut savoir que la Mongolie, bah, c'est des steppes à perte de vue. Pour y avoir moi-même voyagé, c'est vrai que c'est une expérience assez étonnante. On pourrait presque se sentir, on va dire, enfermé dans le paysage puisqu'il n'y a aucun point de repère. Donc c'est vraiment des étendues d'herbes vertes à perte de vue. Il n'y a pas beaucoup d'arbres dans certaines zones. Très peu d'eau aussi. Hein, donc... Il y a vraiment toutes ces difficultés aussi quand même quotidiennes qui sont bien dépeintes dans le film. Donc je vous encourage vraiment à avoir la curiosité de le regarder, au moins de regarder quelques extraits, hein, sur Internet. On en trouve facilement. Ne serait-ce que la bande-annonce, hein, pour avoir les images cette fois-ci. Parce que c'est vraiment magnifique, ça fait voyager et c'est l'intérêt de ce genre de film. Alors juste, elle avait précédemment, ça c'est son deuxième film, elle avait aussi réalisé un film, c'était un film de fin d'études. Elle a fait des études d'ailleurs de cinéma à la fois à Ulaanbaatar et ensuite en Allemagne, à Munich. C'était l'histoire du chameau qui pleure, donc c'est pareil, ça peut aussi être un film que je vous conseillerais de voir, c'est le premier qu'elle a fait. Apparemment, il n'a pas eu tellement de succès en Mongolie par rapport à celui-là, parce que c'était apparemment une histoire que les Mongols connaissaient beaucoup. Hein. En fait, ça se base, ce premier film, sur une tradition mongole, en fait, à savoir que lorsque une bête, par exemple un chameau, est malade ou a un souci, on va dire, a des difficultés notamment à mettre bas, et bien en fait il va falloir on va dire rassurer l'animal en lui jouant de la musique. Donc il y a toute une mise en scène autour de ça, mais apparemment en Mongolie c'est, on va dire, quelque chose qui est très connu en fait, et ça a pas eu les gens n'ont pas vraiment vu en fait l'intérêt du film par rapport peut-être à nous en tant qu'Européens. Nous on découvre quelque chose, mais pas les Mongols spécialement. Une dernière petite référence concernant le chien jaune de Mongolie qui peut être intéressante par rapport aussi à l'importance, on va dire, des bruits et du son dans cette émission. Donc j'ai des petites références simplement sur la musique dans le film. Donc la plupart du temps c'est de la musique traditionnelle de Mongolie, bien évidemment. Il y a un instrument, la vielle à archer, qui est apparemment typique de cette région du monde, donc j'imagine que c'est ce qu'on a pu entendre dans la bande-annonce tout à l'heure, qu'on appelle aussi vielle cheval. Bon, je ne suis pas une spécialiste des instruments de musique, mais en tout cas, c'est apparemment un instrument typique là-bas. Beaucoup de percussions aussi, des voix chantées, donc une voix de femme qui chante dans l'aigu, avec des vocalises, etc. Et puis il y a bien sûr des bruitages, les bruitages de la nature, les bruits du quotidien, le lait qui coule, le riz, bruit de vaisselle, la moto, hein, qu'on a d'ailleurs entendu tout à l'heure dans la bande-annonce, l'éolienne, les roues des chariots, etc. Donc c'est vrai que les bruits et le son, hein, sont très importants, bien évidemment, comme dans tous les films en général. Donc j'espère que vous aurez en tout cas envie de découvrir cette réalisatrice et ces films qui changent de ce qu'on peut voir, on va dire, habituellement au cinéma aussi, hein. Voilà.
Merci Manon, notamment de nous rappeler au travers de cette réalisatrice et de ces films le lien intime entre l'homme et l'animal que les Occidentaux ont sans doute parfois perdu et que des peuples nomades, eux, voilà, ne perdent pas puisque l'animal est souvent au centre de leur vie. On l'a vu tout à l'heure avec les Peuls aussi, puisque ce sont des peuples éleveurs, là en l'occurrence de vaches, mais les Mongols aussi ont besoin, évidemment, et toute la vie est calquée sur le rapport aussi à l'animal. On va s'écarter. Oui, pardon.
Oui, juste, ouais. Et en fait, c'est vrai que dans son film, en fait, son but, c'est aussi de montrer, bah, malheureusement, le problème actuellement en Mongolie, du fait que beaucoup de nomades se sédentarisent. Donc, elle montre notamment cette difficulté avec la petite fille, en fait, qui, elle, va à l'école. Et finalement, on voit dans le film qu'elle est très maladroite, la petite fille, dans toutes les tâches du quotidien, contrairement à sa mère qui, elle, a toujours vécu de manière nomade. Et la petite fille, comme le reste du temps, elle est à l'école le reste de l'année. Bah, finalement, elle s'est sédentarisée, donc elle n'est pas du tout dans le mode de vie nomade au quotidien. Et donc forcément, elle a des difficultés quand elle est dans la vie nomade à nouveau. Et on voit que toutes ces traditions tendent à se perdre. Donc son film aussi, bien évidemment, c'est pour montrer... pour montrer la beauté de cette vie nomade, ce lien avec la nature qu'ont les peuples nomades, et le fait que c'est en train de se perdre complètement au profit de l'industrialisation et de ce qu'on appelle la civilisation. Mais bon, après, toute la question, voilà, c'est de savoir si c'est pas plutôt les peuples nomades en rapport avec la nature qui seraient davantage civilisés au sens où on l'entend, par rapport à l'homme civilisé qui finalement ne cherche qu'à faire du profit et qui est complètement dans le monde matériel, en fait. Voilà.
Avec le prochain extrait audio, qu'on n'aura pas forcément l'occasion de diffuser dans son intégralité parce qu'il est vraiment très long, on se déplace de quelques kilomètres un peu plus au nord vers les confins de la Sibérie avec le peuple Gna, je vais réussir à le prononcer, vous allez voir, mais moi j'ai du mal, Gna-Nassan, voilà, j'aurais essayé en tout cas. C'est un rituel chamanique et vous pouvez le retrouver sur un disque qui est présent à la médiathèque d'Evreux qui s'appelle Shamans Unpossessed, avec mon plus bel accent anglais. On écoute ça tout de suite, en tout cas un petit extrait.
Oh,
Donc je reprends à nouveau la parole, c'est ça.
On vous en prie, Manon, ça fait plaisir de...
C'est le bruit du moteur alors qu'il me... Voilà.
Oui, bah, j'avais ça sous la main. ça fait plaisir.
Voilà, donc avec ce moteur, donc je me permets de reprendre la parole. Donc je vais simplement vous parler aussi d'un auteur en fait, qui a écrit beaucoup autour du thème du nomadisme. Donc un auteur qui s'appelle donc Bruce Chatwin. Il a écrit de nombreux essais, notamment donc il y a un certain nombre d'essais qui sont regroupés dans un livre qui s'appelle Anatomie de l'errance. Il y a dans ce recueil d'essais, il y a notamment trois textes qui ont un rapport direct avec notre thème de ce soir. Donc un qui s'intitule C'est un monde nomade. Donc il y a des petites références intéressantes, vraiment des réflexions, des pistes de réflexion sur le thème du nomadisme et sur la définition même du nomadisme. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à notre monde actuel, en fait. Je me permets donc de lire quelques extraits. Dans l'un de ses essais, donc c'est un monde nomade, il fait une référence notamment à Pascal. Pascal écrivit que toute la tristesse de l'homme découlait uniquement de son incapacité à rester calmement dans une pièce. Notre nature, écrit-il, est dans le mouvement. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Divertissement, distraction, fantaisie, changement de mode, de nourriture, d'amour, de paysage. Nous en avons besoin comme de l'air que nous respirons. Sans changement, notre cerveau et notre corps s'étiolent. L'homme qui reste tranquillement assis dans une pièce au volet clos sombrera vraisemblablement dans la folie, en proie à des hallucinations et à l'introspection. Des neurologues américains ont étudié des électroencéphalogrammes de voyageurs. Ils y ont constaté que les changements d'environnement et la prise de conscience du passage des saisons au cours de l'année stimulaient les rythmes du cerveau, ce qui apportait une sensation de bien-être et incitait à mener une existence plus active. Un cadre de vie monotone, des activités régulières et ennuyeuses entraînaient des types de comportements produisant fatigue, désordre nerveux, apathie, dégoût de soi-même et réactions violentes. Il n'est donc pas surprenant qu'une génération protégée du froid par le chauffage central, de la chaleur par la climatisation, véhiculée dans des moyens de transport aseptisés d'une maison ou hôtel identique à une autre, ressente le besoin de voyages imaginaires ou réels, de stimulants ou de tranquillisants, ou de cures cathartiques de sexe, de musique et de danse. Nous passons beaucoup trop de temps dans des maisons fermées. Donc il y a toute une réflexion en fait qui explique un petit peu le mal-être peut-être aussi de certaines générations et le fait que le voyage et le mouvement seraient la clé du bonheur. Donc on a peut-être aussi une explication du fait que ces peuples nomades qui sont dans la simplicité aussi, hein, qui sont pas dans une vie on va dire matérialiste, finalement quand on voit des reportages sur eux, on a toujours l'impression qu'ils ont quand même un accès, on va dire, plus direct au bonheur que nous. En fait, ils n'ont pas forcément des facilités matérielles, mais c'est vrai qu'ils ont toujours ce rapport à la nature aussi qui donne toujours... On voit toujours qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de rapports aussi entre eux assez, assez authentiques. Donc je trouvais qu'en tout cas, cette réflexion était assez intéressante. Dans ce même livre, Anatomie de l'errance, toujours, hein, on a aussi deux autres essais, Abel le nomade, avec d'autres réflexions intéressantes aussi, par rapport aussi à certains peuples dont on parlait tout à l'heure. Si on retourne un petit peu plus en Afrique, il fait une référence à Wilfred Tessiger, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Donc un auteur en tout cas qui a beaucoup voyagé aussi, hein, notamment en Éthiopie, notamment en 1930. Et donc, pour reprendre quelques références, hein, donc dans cet essai, Tessiger, il nous dit, hein, ici, ne cache pas sa conviction selon laquelle le monde héroïque des pasteurs nomades est plus beau, moralement et physiquement, que la vie des civilisations sédentaires. Tout ce qu'il y a de mieux chez les Arabes est venu du désert. En effet, le mot arabe signifie celui qui vit sous la tente et s'oppose au bazar, celui qui vit dans une maison. Donc je trouvais ça intéressant de savoir que arabe voulait dire tout simplement celui qui vit sous la tente, et donc que l'essence même du peuple arabe, finalement, serait à la base d'être un peuple nomade. Donc il y a plein de petites références intéressantes en tout cas dans ce petit livre, hein, qui est pas long du tout pour l'anatomie de l'errance. Et il y a une autre référence donc en tout cas encore une fois à cet auteur, hein, enfin un autre titre, c'est Le Chant des Pistes, écrit aussi par Bruce Chatwin. Cette fois-ci, en fait, c'est vraiment lui-même qui, en tant qu'auteur, hein, qui est parti en voyage sur les pistes d'Australie. Et donc, c'est encore beaucoup de réflexions. Hein, c'est pas vraiment un roman, puisqu'il va rencontrer un dénommé, que je retrouve son nom. Il va donc rencontrer donc, un dénommé Arkady Volchok, qui est de nationalité australienne, mais d'origine russe. Et donc cet homme en fait va lui faire découvrir les peuples aborigènes en fait, et puis va lui faire découvrir l'Australie. Donc il va voyager donc en Australie et décrire son expérience donc dans ce livre Le Chant des Pistes. Et il y a donc quelques réflexions aussi encore, des extraits aussi de ses carnets de voyage. Hein. Donc il y a beaucoup de références aux aborigènes, mais pas seulement. Hein. Puisqu'après, il y a vraiment des extraits de ses carnets de voyage, mais un petit peu partout dans le monde, parce que c'est un auteur qui a, semble-t-il, été vraiment un vrai baroudeur. Il y a donc une réflexion intéressante encore, et je conclurai avec ça, sur la définition du nomadisme et sur la migration nomade. Donc je me permets encore de vous lire un petit extrait. Donc il nous dit ici, donc je rappelle le titre, « Dans le champ des pistes », toute migration nomade se doit d'être organisée avec la précision et la flexibilité d'une campagne militaire. Derrière, l'herbe se flétrit. Devant, les cols peuvent être bloqués par la neige. La plupart des nomades prétendent posséder l'itinéraire de leur migration. En arabe, ilra. Je suis désolée si ça se prononce pas comme ça. Le chemin. Mais en pratique, ils ne réclament qu'un droit de pâturage saisonnier. Le temps et l'espace sont ainsi confondus. Un mois et un tronçon de route sont synonymes. Mais le nomade, contrairement au chasseur, n'est pas maître de sa migration. C'est plutôt un voyage organisé d'animaux dont le sens instinctif de l'orientation a été émoussé par la domestication. Elle exige de l'habileté et entraîne certains risques. Un homme peut se retrouver comme Job, ruiné en une seule saison, comme le furent les nomades du Sahel ou les sociétés d'élevage du Wyoming dans le grand hiver blanc de 1886-1887. Au cours de la mauvaise saison, un nomade est irrésistiblement tenté de s'écarter de son itinéraire, mais l'armée le guette avec ses mitrailleuses. L'armée, me dit mon ami, le vieux Khan, a maintenant remplacé le lion et le loup. Alors, encore une petite référence un petit peu plus concrète concernant le mot nomade. En grec, prairie se disait nomos, et le nomade était un chef ou un ancien du clan qui présidait à la répartition des pâturages. Nomos en vint ainsi à signifier loi, juste distribution, ce qui est établi par l'usage et constitua donc la base de tout le droit occidental. Le verbe « nemain », brouter, paître, vagabonder ou se disperser, a eu dès l'époque d'Homère un second sens, négocier, partager ou distribuer, particulièrement la terre, les honneurs, la viande ou la boisson. Némésis, c'était l'administration de la justice et donc de la justice divine. Nomisma, monnaie ayant cours, a donné numismatique. Donc les nomades que connaissait Homère étaient les scythes, dont on a souvent parlé aussi, hein. Ceux qui traient les juments, qui parcouraient les steppes de la Russie méridionale dans leurs chariots. C'était un peuple qui enterrait ses chefs sous des tumulus avec leurs chevaux et leur or. Mais les origines du nomadisme sont très difficiles à déterminer. Donc voilà comment il conclut cet extrait hein, que je viens de vous lire, pour dire que c'est quand même quelque chose de très compliqué à cerner. D'ailleurs, on le voit bien aussi, hein, ce soir, on est parti dans différents... Enfin, on a vraiment voyagé un petit peu partout dans le monde. C'est assez compliqué, on va dire, en une heure de réussir à bien cerner, on va dire, toute la question nomade et toute la définition du nomadisme. Donc en tout cas, n'hésitez pas à lire quelques extraits donc, de Bruce Chatwin avec Le Chant des Pistes et puis Anatomie de l'errance. Voilà.
Merci Manon, ça me fait penser, ça me vient comme ça à vous écouter en ce moment sur France Culture et je m'arrêterai là-dessus. Ils diffusent en plusieurs épisodes tout plein de choses sur Jack London. On apprend énormément de choses et c'est passionnant, c'est assez romancé, c'est joué, certains passages sont joués, mais voilà. On repart en musique, nous sommes évidemment pris par le temps. On va du côté des Bushmen du Kalahari, un choix de Monsieur Vivien qui nous accompagne également ce soir. Mm-hmm. Voilà, c'est ainsi que va se terminer ce nouvel opus des Bruits du Monde. Juste, Vivien, nous dire ce qu'on vient d'écouter là, juste à l'instant.
Oui, ça termine sur un grand écart. Passer du Kalahari au Nénets de Sibérie. Donc, un des peuples nomades qui vit grâce aux rennes. Là, c'est tiré des archives d'Alan Lomax. Donc, je ne sais pas par contre d'où exactement.
Ça se passe en Sibérie.
Ça se passe bien au nord, en Sibérie. Et on va en savoir un peu plus juste après avec un extrait de documentaire.
Ouais. En tout cas, merci à vous Manon et Vivien de m'avoir accompagné ce soir. Merci à vous amis auditrices et auditeurs à l'oreille attentive. Cette émission est à retrouver en podcast et à télécharger sur le site de la radio Principe Actif ou sur notre page Facebook Les Bruits du Monde. On se retrouve le mercredi 14 décembre prochain, toujours à 20h. Bonne soirée à l'écoute des programmes de Principe Actif. Et donc on se quitte en effet, vous l'avez dit Vivien, avec les idées claires de Daniel Salnave, Les Nomades de Sibérie. Ça date du 15 novembre 2013 et vous pouvez retrouver ça sur France Culture. Voilà, nous, on se retrouve dans 15 jours. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné ce soir.
Bonsoir. Bientôt. À bientôt.
Comme chaque vendredi, c'est l'heure des idées claires de Daniel Salnave, de l'Académie française. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui des nomades de Sibérie.
Oui, j'ai pensé à eux parce que je les ai rencontrés, mais pas seulement pour ça. Parce que, à propos des affaires des Roms qui occupent l'Europe, on oublie souvent de penser que, fondamentalement, le problème, entre guillemets, qu'ils posent, c'est un mode de vie. Le mode de vie qui n'est pas sédentarisé. Le mot nomade, on sait qu'il est venu pour désigner tous ceux qui se déplaçaient pour trouver des pâturages, donc par extension, tous ceux qui refusaient tout ancrage. Et pour les gens de ma génération, mon cher Marc, et évidemment, à l'époque, vous étiez encore un peu petit, cette question du nomadisme a beaucoup agité les milieux intellectuels quand elle a été posée par Deleuze et Guattari, qui ont réfléchi sur cette déterritorialisation, une économie du désir sans frontières qui libérait le psychisme d'une assignation à résidence, cette assignation à résidence pour eux étant la surestimation de l'Édipe. Et c'est vrai que ça a été un bouleversement de la pensée, mais il y a aussi la situation réelle des derniers peuples nomades, et moi elle me préoccupe beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il existe en Sibérie un peuple qui est peut-être le dernier peuple nomade du monde, ce sont les Nénets, un peuple authentiquement nomade. Or, il se trouve que sur leur territoire, on s'apprête à ouvrir à l'exploitation intensive d'immenses réserves de gaz naturel qui est située sur leur territoire. Alors, les Nénets, c'est la plus importante des 26 ethnies sibériennes. Leur population est estimée à environ 40 000 individus. Et contrairement à une facilité qui dit « c'est un peuple en extinction », c'est pas le cas. C'est un peuple qui plutôt se stabilise et plutôt en augmentation. Donc la menace, elle vient de l'extérieur. Il vit dans la toundra, sur la côte arctique, notamment dans la presqu'île du Taïmyr. C'est là que j'ai eu l'occasion de survoler d'abord cette presqu'île de toundra et ensuite d'en rencontrer quelques-uns dans des villes. Il y a aussi le très beau livre de Golovanov, L'éloge des voyages insensés, où il est allé à la rencontre de ces populations, à la limite du territoire arctique. Les Nénets ont une vie parfaitement équilibrée. Un récent reportage de la chaîne Arte les a montré. Ils ont les rennes qui leur fournissent tout, la viande, le sang, la peau, les vêtements, les chaussures, les outils, les instruments. Leur religion elle-même est extrêmement stable et les a maintenus dans cet état d'équilibre où ils sont. Ce sont des croyances chamaniques, pour l'essentiel, qui tournent autour de la terre et des âmes des anciens occupants. Et Golovanov est même persuadé qu'ils sont là, les anciens occupants, et qu'il en a rencontré. Ils n'étaient pas très respectés dans leur mode de vie par le système soviétique qui voulait de toute force les sédentariser. Aujourd'hui, on ne cherche pas à les sédentariser, mais on retire leurs enfants, par exemple, toute l'année pour les placer dans des internats, pour les former. Et c'est vraiment des images très bouleversantes. On voit ces enfants qui sont silencieux, ébahis, qui ont vécu sur la terre dure et une peau de renne, et qui tout d'un coup sont dans des dortoirs. Et des femmes s'occupent d'eux très bien. Mais un choix s'ouvre à eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin de leurs études ? Eh bien, la plupart disent, on ne va pas retourner vivre là-bas, parce que des opportunités, comme on dit aujourd'hui en franglais, s'ouvrent à nous, c'est l'exploitation du gaz et du pétrole. Or, c'est vraiment ce qui les menace le plus, parce qu'il faut bien voir que dans cette région du monde, c'est un héritage ça du système soviétique, il n'y a pas la moindre conscience écologique, le désastre naturel y est total, et je pense que la grande menace, en effet, des nénettes, c'est ce qui s'est passé à Norilsk avec le nickel, c'est-à-dire un désastre de la Terre, mais aussi humain, des conditions dans lesquelles ce dernier peuple nomade risque de se perdre. Voilà.
Merci Daniel Saldave.
Les bruits du monde.